Europe 1 Soir.
19h-21h, Pierre de Villeneuve.
Retour sur le plateau d'Europe 1 Soir. Elle est aussi candidate aux européennes malgré des sondages situés entre 0,5 et 1%. Elle représente depuis 15 ans Lutte ouvrière. Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
La Nouvelle-Calédonie a connu des affrontements sans précédent cette semaine dernière. Quel regard portez-vous sur ces émeutes? Et d'abord, est-ce que vous seriez d'accord de parler de néocolonialisme de la part de la France?
Bien sûr, écoutez, Emmanuel Macron a voulu passer en force pour que les Kanaks deviennent minoritaires et ne puissent finalement pas décider de leur avenir, ce qui pour moi me semble le minimum. Qu'est-ce que c'est ça? Sinon la continuité d'une politique coloniale. Parce qu'il faut le rappeler, qu'est-ce que c'est la France là-bas? Elle naît en fait la
une
Nouvelle-Calédonie.
Une collectivité d'outre-mer depuis 1999.
Oui, enfin la Nouvelle-Calédonie n'est française que par la violence des troupes coloniales qui ont débarqué il y a 170 ans.
Elle n'est plus colonie depuis 1946. Elle est devenue ensuite un territoire d'outre-mer, puis une collectivité d'outre-mer.
Bah, je suis toujours impressionnée par ces grands mots, par ces règlements qui viennent je ne sais de qui, je ne sais d'où.
Ce sont les institutions, on aime, on n'aime pas, mais ce sont les institutions.
C'est ça, ce sont les institutions, parce que si on demande l'avis aujourd'hui des Kanaks qui sont au chômage, qui galèrent, qui ne peuvent pas y compris habiter dans certains quartiers de Nouméa, parce que de toute façon, ils sont finalement réservés à ceux qui sont beaucoup plus riches. Voilà, si on leur donne la parole pour décrire ce qu'ils vivent, ça sera tout sauf l'égalité.
Donc pour vous et pour Lutte ouvrière, les Kanaks sont pauvres et les Caldoches sont riches. Voilà, c'est symétrique.
Non, c'est pas aussi schématique que ça, mais vous savez, les statistiques officielles du gouvernement soulignent que, en effet, les Kanaks qui sont d'ailleurs beaucoup repoussés dans la brousse et que ceux qui vivent à Nouméa sont bien sûr parmi les plus pauvres, les plus au chômage et les plus mal logés. Voilà, c'est la réalité. Et que depuis bien longtemps, finalement, la Nouvelle-Calédonie, ce n'est plus leur pays, c'est le pays du nickel pour les capitalistes. Et c'est en effet une place forte pour l'État français dans le Pacifique. Donc c'est tout cela qui rejaillit dans cette révolte. Et je crois que c'est en effet autant la pauvreté, la frustration, ce sentiment d'injustice profond qui rejaillit, en fait.
Mais vous avez dit, il faut rendre, je vous ai entendu, la Nouvelle-Calédonie au Kanak. Vous avez parlé du nickel. Est-ce que ça voudrait dire que ça serait une indépendance totale? Est-ce qu'il n'y a pas un risque que la Chine et d'autres pays soient en connexion et avalent d'une certaine manière la Nouvelle-Calédonie?
Je n'ai pas dit qu'il faut rendre la Nouvelle-Calédonie au Kanak.
Si, vous l'avez dit chez nos confrères de Sud Radio, je vous ai entendu.
Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai dit que c'était aux Kanaks de décider de leur avenir. C'est à eux de dire ce qu'ils souhaitent.
Il y a eu des référendums pour ça.
Voilà. C'est à eux de s'exprimer. Mais à eux, et pas noyés dans un référendum, etc., où ils seraient rendus minoritaires, y compris. Voilà. C'est à eux de le décider.
Pourquoi
voilà,
le référendum serait minoritaire? Donc, je ne comprends pas.
Vous avez quand même vu comment s'était passé le troisième référendum.
Il y a eu un boycott. Il y a eu un boycott des Kanaks.
Voilà, parce que les conditions dans lesquelles il se déroulait allaient de fait exclure. Donc, si vous voulez, moi, je ne suis pas dans les tours de passe-passe institutionnels, y compris, on va utiliser les élections. Il faut regarder ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe, c'est qu'en effet, il y a des inégalités qui sont criante. Il y a une injustice qui est faite à toute cette jeunesse qui ne se voit pas d'avenir. Et tout cela, il faut le changer. Mais moi, ce que je vois, c'est qu'avec la politique qui est poursuivie aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Moi, je n'ai aucun problème pour dire que l'avenir, mais ça serait que les deux populations, les deux catégories de population, bien sûr, vivent ensemble, etc., etc. Et d'ailleurs, je pense que c'était possible.
Oui.
Et je pense que c'est encore possible.
C'est ce que disent les habitants juste avant les émeutes. Ils étaient tous copains, ils allaient voir les uns chez les autres, etc. Puis tout d'un coup, il y a eu l'embrasement.
Mais non, moi je pense que le problème, c'est que depuis le début, l'État français utilise les habitants qui viennent de métropole contre la population kanak. Il l'adresse contre la population kanak. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, en effet, il y a peut-être une situation pas loin de la guerre civile, mais tout ça, ce n'était pas écrit. Justement, ce n'était pas écrit. Moi, je considère que deux peuples, y compris des cultures différentes et venant de régions du monde différentes, peuvent y compris s'épanouir de leurs différences mutuelles. Moi, c'est ma conception profonde et ma perspective profonde pour l'avenir de l'humanité. Mais ce que j'observe, c'est que partout dans le monde, parce que c'est pas propre d'ailleurs à la Nouvelle-Calédonie, c'est pareil aussi finalement en Israël et en Palestine, c'est que pour des calculs sordides de suprématie économique, de position stratégique, eh bien, les grandes puissances impérialistes, elles ont le don de dresser les peuples les uns contre les autres. Et on en ira dans une situation comme celle-là. Donc pour moi, la responsabilité, en effet, c'est toujours pareil. C'est ces États qui ne jurent finalement que par la position de leur grand groupe capitaliste, le fait qu'ils puissent accéder aux matières premières, qu'ils puissent avoir des marchés, etc.
Quand vous dites les États, c'est aussi l'Union européenne, et c'est la raison pour laquelle vous vous engagez dans cette bataille pour les Européennes, Nathalie Arthaud.
Oui, mais vous savez, l'Union européenne, de ce point de vue-là, est l'émanation des grandes puissances capitalistes européennes. Moi, je mets dans un même sac l'Union européenne capitaliste et l'État français capitaliste. Et je pense que, et ce que j'ai envie de dire aux travailleuses et aux travailleurs qui nous écoutent, c'est qu'il faut attendre rien de bon, ni de l'un, ni de l'autre.
Mais qu'est-ce que vous proposez?
Eh bien, moi, j'appelle le monde du travail à cette conscience que finalement, pour changer notre sort, pouvoir répondre à la rapacité patronale qui quand même qui s'étale, qui s'étale dans toute sa splendeur, quand vous voyez aujourd'hui des capitalistes qui peuvent amasser des millions par jour, un PDG comme Carlos Tavares engranger 100 000 euros par jour, et des travailleurs, des ouvriers qui dorment dans leur voiture, qui ont du mal à se chauffer. J'ai envie de leur dire aussi aux travailleurs, c'est qu'on est confronté maintenant, plus seulement à l'exploitation, mais à cette montée du nationalisme, du racisme et des guerres. Et par rapport à cela, tout va dépendre de notre capacité à nous battre en réalité, à nous battre pour nos intérêts et pour changer la société. Parce que moi, je reste dans cette perspective-là.
Vous avez des, je l'ai dit, vous avez à peu près 1% d'intention de vote par rapport à des partis d'extrême gauche comme le PC ou LFI qui sont devant. Qu'est-ce qui reste de communiste chez les communistes et chez la France insoumise?
Écoutez, moi, je pense qu'être communiste, c'est avoir justement la perspective d'exproprier ces grands groupes capitalistes. Quand vous prenez des trusts, des grands groupes multinationales qui embauchent, qui emploient des centaines de milliers de salariés aux quatre coins du monde, qui sont dirigés par un conseil d'administration d'une dizaine de grandes familles bourgeoises, d'une dizaine de grandes de personnes. Vous trouvez que c'est démocratique? Vous trouvez que c'est avec ça qu'on va répondre, qu'on va organiser l'économie pour qu'elle réponde aux besoins
ça a toujours été comme ça.
Le capitalisme n'a pas toujours existé, figurez-vous. Il est assez récent, finalement, dans l'histoire de l'humanité, n'est-ce pas? On peut aller en France, grosso modo, on va parler de la Révolution française.
Il y a des tas de gens qui sont contents de travailler dans ces entreprises, Nathalie Arthaud, et qui savent très bien que le patron gagne N fois 20 leur salaire, et c'est comme ça, ils sont très contents.
Mais parce qu'on n'a pas le choix.
S'ils n'étaient pas contents, vous auriez 80% d'intention de vote dans les sondages, Nathalie Arthaud.
Non, mais j'appelle le monde du travail à ne pas se résigner à cet ordre qui est injuste. Parce que ce n'est pas parce qu'on n'a pas le choix qu'on doit trouver ça juste. Vous avez raison, on n'a pas le choix. Si on veut gagner notre vie, il faut en passer par là. Mais ce n'est pas une organisation juste. Et surtout, ceux qui dirigent ce grand patronat, vous trouvez qu'ils dirigent bien la société? Vous trouvez qu'ils font ce qui devrait être fait? Aujourd'hui, on a comme jamais, on a des richesses en quantité comme jamais, des moyens de circulation, des moyens de communication comme jamais, des connaissances comme jamais. Comment vous expliquez qu'il y a encore cette faim dans le monde? Comment vous expliquez qu'il y a des régions entières de femmes et d'hommes qui vivent avec rien? Comment vous expliquez ces guerres?
Merci.
Ce sont ceux qui dirigent, qui sont les responsables. C'est sûrement pas les travailleurs, c'est sûrement pas les immigrés d'ailleurs qui sont sans cesse pointés du doigt.
La question est posée par vous, Nathalie Arthaud, pour notamment en vue de ces élections européennes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Europe 1.
Merci.
Europe 1 soir, 19h-21h, Pierre de Villeneuve.